Psaume 32, nous lisons les versets 5 à 8. Psaume 32. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Puis c'est marqué pause. Faisons une pause. Seigneur, tu as enlevé la faute. Tu l'as éloignée aussi, comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable. Au temps convenable, c'est aujourd'hui. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi, tu me gardes de la détresse, tu m'entoures de cris de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Et je m'arrête là. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Mon thème ce matin, c'est « Soyez certains, Dieu vous conduira. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Ne sois pas comme un cheval têtu ou un mulet ou un âne qui refuse d'avancer parce que la direction divine, elle est parfois bien plus simple et elle est toujours plus simple pour ceux qui ont les bonnes attitudes, les attitudes qui plaisent à Dieu. » Et nous lisons encore dans Psaume 48, le verset 15, uniquement le verset 15. « Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à perpétuité. Il sera notre guide jusqu'à la mort. » Est-ce qu'on veut le dire ensemble, cette dernière partie de ce verset ?« Il sera notre guide jusqu'à la mort. » On va dire « Il sera mon guide. » « Il sera mon guide jusqu'à la mort. » Personne d'entre nous ne sait ce qui va se passer jusqu'à notre mort. Et je me demande toujours, mais pourquoi les gens veulent-ils connaître leur avenir? Comment ça se fait que le commerce des divinations et des marchands d'avenir est tellement fécond et tellement intéressant? Moi, je n'ai pas envie de connaître mon avenir. La Bible me dit suffisamment sur mon avenir. Et je sais que ça va bien se finir et que le meilleur est devant. J'ai pas besoin de savoir si dans 3 semaines ou dans 3 ans, il y a une tuile qui va me tomber dessus parce que je vais angoisser. Je vais dire, comment ça va se passer? Est-ce que je vais supporter? Ça ne sert à rien de connaître son avenir. La Bible seule nous dit suffisamment de choses pour que nous soyons rassurés. Dieu n'a pas besoin de te raconter en détail ton avenir. Il veut que tu marches dans la confiance et la foi jour après jour. Sois rassuré. Dieu te conduira. Dieu te conduira. Dans les psaumes, nous voyons souvent que être conduit par Dieu est une véritable prière. Par exemple, le psaume 5, verset 9 nous dit, psaume 5, verset 9, « Éternel, conduis-moi dans ta justice. » Dans le psaume 25, verset 5, il est dit « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. » car tu es le Dieu de mon salut. Dans le psaume 27, verset 11, il est dit, « Conduis-moi dans le sentier de la droiture. » Dans le psaume 119, verset 35, « Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements. » Et puis, un autre texte très connu, c'est le psaume 139, verset 24, à la fin, il est dit, « Conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc, nous sommes dans l'Ancien Testament. Le psalmiste savait, il savait, lui en tant qu'Israélite, attaché aux promesses, attaché à ses pères et aux promesses qu'ils avaient reçues, il savait que Dieu allait les conduire, il le savait. Mais il va demander avec précision, « Seigneur, conduis-moi dans la vérité, dans la justice, dans tes commandements, sur la voie d'éternité. » Il demandait non seulement « Seigneur, conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi. » Il avait déjà compris dans l'Ancien Testament que ce n'est pas nécessaire de prier comme ça. Et j'entends beaucoup de chrétiens qui paniquent et disent « Seigneur, conduis-moi aujourd'hui, conduis-moi !» Mais relax, Dieu va vous conduire. Vous n'avez pas besoin de paniquer comme un enfant qui rentrerait à la maison tout stressé en disant « Papa, est-ce que tu as payé la facture de l'assurance ?»« Papa, est-ce que maman, est-ce que tu as eu assez d'argent pour payer mon dîner et le préparer ?»« Est-ce que le bus scolaire a été Non. Un enfant fait confiance à son papa. Donc le psalmiste, déjà, il faisait confiance. Dieu le conduirait, mais il demandait avec précision, je désirais être conduit dans la vérité, dans la justice, selon ta parole, sur le chemin de l'éternité. Ça, c'est des bonnes prières. Seigneur, conduis-moi, que je ne me trompe pas. Je sais que tu vas me conduire, mais il y a encore des choses plus précises à demander. Le psalmiste savait ce qu'il voulait. Il voulait la priorité sur la vérité, la justice et la volonté de Dieu. Maintenant, que dit le Nouveau Testament sur la direction divine? Nous lisons dans Jean chapitre 16, Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Ça montre que le Saint-Esprit, en collaboration avec Jésus, prend de sa parole et nous la communique, nous la transmet. Le Saint-Esprit désire conduire chacun de nous dans la vérité et il le fera. L'Esprit de vérité vous conduira. Faut-il prier pour ça? Non, il le fait. C'est son travail, à lui. Romains 8, 14 nous dit, et c'est là un texte très important, Romains 8, verset 14, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc cela veut dire que le point de départ pour être conduit par Dieu, il faut d'abord que tu sois certain que tu sois un fils et une fille de Dieu. Si tu es fils de Dieu, alors l'Esprit de Dieu te conduira. Si tu n'es pas encore fils ou fille de Dieu, tu es perdu dans la direction divine. Tu ne peux pas t'y retrouver. Dès que tu reçois le Seigneur, dès que tu reçois l'Esprit de Dieu, dès que tu reçois le salut, dès que tu nais de nouveau, et c'est ça qui est le mot clé, la nouvelle naissance, à ce moment-là, le Saint-Esprit en toi, c'est son travail. Il sait ce qu'il a à faire. Il va te conduire dans la vérité. Seulement, il faut, faisons référence à ce qu'on a lu tout à l'heure, pas être une mule têtue. Si je reste à garder tout en main moi-même, le Saint-Esprit va travailler, mais il ne va pas m'obliger. Il ne va pas prendre le volant de ma voiture hors de mes mains pour conduire lui-même. Il va me laisser faire. Mais il va travailler, toujours, dans le sens de révéler la vérité. Il vous conduira dans la vérité. Ça peut être facile pour celui qui est humble, soumis et obéissant, et ça peut être très compliqué pour celui qui est têtu, obstiné et qui refuse dans son orgueil et son entêtement d'avancer comme Dieu le veut. Donc, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Si quelqu'un veut voir le royaume de Dieu, il faut passer par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas connaître les clés et les points forts et toute la dimension du royaume de Dieu si tu ne nais pas de nouveau en priorité. Et j'aimerais dire à certains ce matin, vous avez déjà fait une démarche de repentance, vous êtes déjà approché du Seigneur, mais ce n'est pas forcément pour autant que vous êtes né de nouveau. Quand vous êtes né de nouveau, l'Esprit de Dieu rentre en vous. Et vous le savez. Vous le savez que vous savez que vous êtes né de nouveau. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut essayer de trouver quelque part comme une espèce de chasse au trésor. Vous êtes né de nouveau et vous le savez. La vie nouvelle, elle est là. La joie, la paix, la présence de Dieu, c'est simplement là. C'est là. Il faut naître de nouveau. Donc, entrez par la porte étroite, par la repentance, par le pardon, la conversion, et vivez par la puissance de Dieu la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Afin de pouvoir vous mouvoir dans la vie de l'Esprit, ceux qui sont conduits par l'Esprit, ceux qui marchent dans la vie de l'Esprit, eh bien, c'est ceux-là qui sont enfants de Dieu. Maintenant, il y a des étapes pour entendre la voix de Dieu. Il y a des étapes pour être conduit par le Seigneur. La première étape, c'est l'étape de base, c'est l'étape de l'enfance. L'enfant est conduit et il ne se rend pas compte qu'il est conduit dans son premier âge. Souvent, nous sommes, quand nous repensons au début de notre vie chrétienne, et même avant, nous sommes conduits sans en avoir eu la connaissance véritable. Nous avons été conduits malgré nous. Quand je repense au début de ma vie chrétienne, je ne connaissais pas encore la voix de Dieu, mais je sais que j'ai été conduit, j'ai été protégé, j'ai été gardé. Et avec le recul, j'ai pu voir. Mais franchement, Dieu a pris soin de ma vie. C'est lui qui a dirigé ma vie, c'est lui qui a pris le volant de ma voiture que je lui ai confiée. Et j'aimerais dire une chose importante. Lorsque tu confies ta vie au Seigneur, il te prend au sérieux. Lorsque tu confies ta vie au Seigneur, il te prend au sérieux. Il tient compte de cette prière. Ce n'est pas juste quelque chose que... Même si toi tu oublies, lui n'oublie pas. Et la première étape, c'est être conduit simplement sans même se rendre compte. Ça, c'est l'étape de l'enfance. Je pense que nous avons tous eu des revers dans la vie, des imprévus, des retards, des choses qui ne marchent pas, des portes qui étaient ouvertes, puis tout à coup, ça se ferme de nouveau. Et c'est irritant, et on demande pourquoi, et qu'est-ce qui se passe? Quel temps perdu, de l'argent perdu? Mais parfois, avec le recul, on voit que c'était une bonne chose en définitive. Et que Dieu a permis aussi ce genre de choses parce qu'il y avait une direction là derrière pour autre chose, pour m'apprendre quelque chose ou pour avoir quelque chose de meilleur. Alors mon frère, ma sœur, si tu es dans une zone actuellement inconfortable où quelque chose ne fonctionne pas, ça ne débouche pas, ça ne marche pas, au lieu de dire pourquoi Seigneur, calme-toi. Bon, le calme et la confiance sera votre force. Si tu as confié ta vie entre les mains du Seigneur, tu n'as pas besoin de gérer tout. C'est lui qui gère pour toi. C'est lui qui conduit les circonstances. C'est lui qui, même le cœur des rois est comme un cours d'eau dans sa main. Celui qui a créé l'univers avec des milliards d'années-lumière d'extension et de distance, ne peut-il pas prendre soin de nous qui sommes un grain de poussière dans l'univers? Mais quand même, faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Ça sert à ça les cultes du matin ici. Les cultes, c'est vous donner confiance dans le Seigneur, dans sa parole, pas dans un Dieu imaginaire que tu t'es fabriqué, mais dans le Dieu de la parole. Il tient, c'est un fondement éternel, il faut être bâti dessus. Donc première étape, c'est que Dieu nous conduit parfois malgré nous et souvent nous nous rendons compte après coup que nous avons été conduits. Je pense à plusieurs situations où des malheurs et des accidents ont été évités justement parce qu'une porte s'est fermée, on a dû prendre un autre chemin et si on avait continué tout droit, si on avait été comme une mule qui s'entête à faire quand même cela, on se serait cassé le nez sur un gros problème. Ensuite vient la période de la croissance. Et si je voudrais aussi apporter quelques témoignages personnels. C'est lorsque vous êtes conduit au début de votre vie chrétienne par les paroles et les conseils d'un autre, d'un responsable spirituel, d'un pasteur. Dans mon cas, c'était dans mes stages, j'en ai fait 3 par les pasteurs qui m'ont formé ou même les professeurs à l'école biblique. Les conseils qu'ils m'ont donnés et les directions qu'ils m'ont suggérées vivement dans les premières années après ma formation, la voix de Dieu a passé par eux. J'ai accepté que Dieu leur donne le conseil me concernant. Alors aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui dit, oh là, un pasteur peut se tromper, c'est pas Dieu, c'est un homme, comment est-ce que je peux faire confiance? Moi, je veux recevoir directement de Dieu. Dieu m'a dit. J'aimerais vous dire, il y en a beaucoup qui disent ça, et j'aimerais vous rendre attentif à quelque chose. Ne prenez pas le nom de Dieu en vain. N'utilisez pas le nom du Seigneur pour faire croire que c'est la voix de Dieu, alors que c'est votre souhait, votre désir, votre souhait le plus cher. C'est votre imagination et ce n'est pas du tout la voix de Dieu. Or, on utilise ce terme « Dieu m'a dit » comme ça. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Cela discrédite le don de prophétie. Cela discrédite l'écoute de la voix de Dieu. Et la parole de Dieu dit que c'est aussi juste d'être conduit par des hommes qui ont reçu l'onction. C'est juste. Nous allons voir un exemple ou l'autre. Quand vous regardez Samuel, le petit Samuel, qui a été amenée par sa maman Anne. Elle a été amenée vers un homme de Dieu qui s'appelait Élie, E-L-I. Cet homme, est-ce que c'était un excellent formateur, un excellent pasteur en Israël? Manifestement non. Il était très très médiocre. Il avait beaucoup de lacunes. Mais quand Dieu va parler à Samuel, il va aller vers son mentor, il va aller vers son pasteur. Il dit, tu m'as parlé? Il ne connaissait pas la voix de Dieu, il a confondu la voix de Dieu. Il croyait que c'était la voix de son maître. Donc il est allé vers lui, c'est lui qui devait donner le bon conseil. Il est en tout cas pas faux de regarder, d'écouter avec attention et d'évaluer avec sincérité, avec vérité et avec honnêteté une parole qu'un homme ou une femme de Dieu, loin de Dieu, établi dans le ministère, peut recevoir. Souvent j'entends, pasteur, le Seigneur m'a parlé au travers de vous dans une prédication, et je l'entends aussi souvent au travers des émissions que je fais à la télévision en Afrique, etc. Je réponds simplement, priez pour moi, je rends grâce à Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes qu'un canal, mais Dieu respecte l'onction qui a été placée sur un homme qui a été oint pour le ministère. Car un ministère, c'est un don à l'Église. Ce n'est pas une votation d'Église qui fait de vous, qui fait de moi, ou qui fait de Jean-Paul ou d'un autre un pasteur. Ce n'est pas une votation. C'est un don de Dieu pour l'Église. Au-dessus de nos votations, qui sont la manière de faire ici, il y a le choix de Dieu et l'onction du Seigneur. Il y a cela. Et pour cela, il y a une bonne attitude qui est nécessaire. Et c'est ça que je voudrais appuyer. Si vous êtes humble pour dire, ça peut être ça. Si vous êtes soumis dans l'apprentissage de la soumission, eh bien, la voix de Dieu qui passe par un homme de Dieu, qui vous donne son conseil, même sa direction, ce qu'il faudrait faire, eh bien, ce sera bénéfique pour vous. J'aimerais parler par expérience. J'ai été dirigé pendant plusieurs années par des hommes qui n'étaient pas seulement des pasteurs extraordinaires, mais Dieu les a utilisés pour me diriger clairement, et je peux le dire avec reconnaissance que ce qui a été dit et fait, ça a été du Seigneur, clairement, clairement. Lorsque nous sommes partis en Corse, en 1984, en 1983, je vais vous raconter, j'ai déjà raconté à des personnes individuelles, mais je ne pense pas l'avoir déjà dit ici, voilà comment ça s'est passé. Le pasteur qui travaillait en Corse, dans une petite communauté, avait entendu parler, suite à la libération des ondes, qu'on pouvait démarrer une radio locale. Et donc moi, dans mon deuxième stage, je travaillais dans le cadre de la radio locale en Belgique. Et lui a téléphoné au pasteur où j'étais. Il m'a dit, envoie-moi ton stagiaire, j'ai besoin de lui pour ouvrir la radio ici. Le conseil d'un homme, que l'on pourrait dire, mais il se prend pour qui là? Attends, c'est pas lui qui va conduire ma vie quand même. Eh bien si. Et donc nous avons évalué cela et nous avons eu la paix, alors qu'on nous voulait dans trois endroits différents en Belgique, et nous avons senti que c'était juste. Donc nous avons entendu le conseil, sans connaître le serviteur même en place, mais on faisait confiance, et on a évalué ça et on a reçu une parole, chacun, Génie et moi, pour le feu vert. Maintenant, on n'était pas soutenus. Et voici ce que Dieu a fait. En Suisse allemande, il y avait un mouvement d'église qui faisait des temps de jeûne et prière. Et le pasteur de Corse avait entendu parler de cela et il a pris une journée dans la semaine pour aller à cette semaine de jeûne et prière. Il arrive en cours de journée et il s'assied dans les rangs. Et voilà qu'il y a une prophétie. La prophétie disait, il disait à peu près comme ceci, « Le Seigneur te ferme la porte pour aller en Afrique. » Et disait le nom du missionnaire qui était concerné par cela. Le missionnaire était dans les rangs aussi et ok, il avait compris qu'apparemment son temps en Afrique se terminait. Alors le pasteur qui était venu dans la journée se dit, mais ce mouvement d'église, si ils arrêtent le soutien pour un pasteur en Afrique, peut-être que moi je pourrais demander un soutien pour le travail radio en Corse. Il a fait une déduction logique, spirituelle ou pas, je ne sais pas. Il est allé trouver le comité qui a pris à cœur cette demande toute simple, sans connaître le frère en question. Il a demandé de venir voir le jeune qui allait s'en occuper, donc je suis venu de Belgique un jour d'hiver, et je me suis présenté à ce comité qui m'a vu, qui m'a posé beaucoup de questions, et ils ont essayé de comprendre de quoi il s'agissait, Et séance tenante, ils ont accepté de nous financer pendant un certain nombre d'années pour ce travail pionnier en Corse. Ils ne savaient même pas où se trouvait cette île. Ils ne savaient pas où ça se trouvait. Ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Mais ils ont investi avec foi dans un jeune qui n'avait pas beaucoup d'expérience encore. Dieu parle au travers des gens. N'attendez pas à recevoir toujours tout droit du Seigneur. Il choisit d'utiliser des ministères sur place. Ils ne sont pas parfaits, ces ministères. Bien sûr que non. Mais ils ont reçu une onction pastorale, une onction dans le ministère. J'aimerais rajouter un deuxième témoignage. Lorsque j'ai été consacré au mois de mai 1987 à la convention de Salange, il y avait donc beaucoup de monde et on a demandé à tous les pasteurs à la fin de venir devant et que la foule s'avance pour les différents besoins. Et voilà que je me retrouvais fraîchement consacré depuis 15 minutes là devant avec les autres et j'étais tout bizarre parce que je venais de ma Corse où il n'y avait rien, où il n'y avait pas de pastoral, il n'y avait pas grand-chose. Et je me souviens avoir vu un jeune qui s'avance vers moi et qui me raconte un problème compliqué, mais quelque chose d'incroyable. Alors, en toute simplicité, j'ai prié pour lui. Il est reparti. J'aimerais vous dire que c'est des années plus tard, que j'ai revu ce jeune qui habitait dans une autre ville de France et qui m'a dit que ce jour-là, il avait été exaucé de manière miraculeuse par la prière qui avait été faite. C'était ma première prière de pasteur. L'onction pastorale, ce n'est pas se prendre pour quelqu'un. Ce n'est pas d'être un showman. Ce n'est pas de se croire quelqu'un. C'est rester petit, humble et dépendant de Dieu. Mais Dieu voit l'onction que souvent les pasteurs ne voient même pas sur eux-mêmes. On ne voit même pas. Et il vaut mieux. Il vaut mieux. C'est pourquoi le conseil que donne un pasteur, ça peut très bien être la parole de Dieu pour vous. Ça peut être. Ne venez pas nous trouver pour qu'il y ait une prophétie et que ce soit la révélation comme les gens venaient trouver les prophètes dans cet amant. Ne venez pas faire ça. Cherchez Dieu pour vous-même. Mais le Seigneur peut très bien utiliser les ministères pour votre direction divine. Donc je reviens à Samuel qui a été trouvé Élie, son mentor. Et il commençait à entendre la voix de Dieu de plus en plus. De plus en plus. Et le petit Samuel, grand prophète en Israël plus tard, il ne se rendait pas compte qu'il devenait prophète. Il ne se rendait compte de rien. Il était juste au service d'Élie, qui était un homme très médiocre, un serviteur très très médiocre. Et à un moment donné, la Bible nous dit dans le premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 11, où il est dit qu'à un moment donné, c'est le peuple qui reconnaît Samuel comme prophète. Il ne s'est pas autoproclamé prophète. C'est même pas Élie qui l'a oint comme prophète. Le peuple l'a reconnu comme prophète. Vous savez, quand vous avez une onction sur vous, ça se reconnaît parmi les gens. Ça se reconnaît parmi le peuple de Dieu. Il n'y a pas besoin de se croire et de se prendre pour quelqu'un ou de se faire imprimer des cartes de visite avec « je suis révérend, je suis pasteur, je suis bishop, je suis superintendant de ceci ». Pas besoin. Ça doit être reconnu au milieu de l'Église, au milieu du peuple de Dieu, avec le temps. Avec le temps. Dieu a son temps. Dieu a son temps. J'ai fait confiance à l'inspiration que je recevais et les conseils par ces pasteurs. Et le Seigneur a utilisé ça. C'est pour ça que nous devons être attentifs et faire attention à toute critique contre les serviteurs qui ont été oints de Dieu. Vous savez, si vous avez quelque chose à dire à votre pasteur, ayez le courage de lui dire. Vous venez avec quelqu'un pour que vous soyez à l'aise pour le dire. Mais critiquer par derrière, j'aimerais vous dire, là vous n'avez pas affaire à une critique simple, mais vous aurez affaire à l'onction de Dieu qui va vous confronter vous-même. Des personnes qui critiquent vont être tôt ou tard confrontées à l'onction de l'homme ou de la femme de Dieu contre laquelle ils critiquent. L'onction qui est sur eux va les confronter. Il y aurait bien des exemples à citer. Pas besoin d'entrer dans les détails pour ne pas alourdir le message. Mais en tout cas, j'aimerais vous remercier pour votre confiance à l'équipe pastorale que nous sommes. Et nous voulons, dans cette grande responsabilité qui est la nôtre, nous tenir devant Dieu pour vous, afin de ne pas dire n'importe quoi, mais recevoir des conseils. Et je sais que certains conseils qui m'ont été mis sur mon cœur pour certains, et qui n'ont pas été appliqués, j'ai vu aussi avec le recul ce que ça a donné. Parce que je dis les choses. J'ai dit à un jeune, tu ne devrais pas te marier avec cette personne qui n'est pas du tout dans la foi. Mais le cœur parlait plus fort que ma voix. Et la personne s'est quand même mariée. Avec le recul, on voit ce que ça donne. Ce sont des choses qui sont importantes. Maintenant, après avoir parlé de la direction de Dieu, lorsque nous sommes pratiquement inconscients de la direction de Dieu, ensuite nous sommes conduits aussi par des gens où nous sommes sous responsabilité. La troisième étape, c'est d'entendre la voix de Dieu pour nous-mêmes. Et comme Samuel, encore une fois, qui grandissait tranquillement dans ce temple, il était, comme dit la parole dans le texte de 1 Samuel, vous lirez, je ne vais pas revenir dans tous ces textes, mais vous lirez que Samuel était près de l'arche de l'Alliance. Il se tenait, tout comme sa maman d'ailleurs, qui est venue prier dans le temple et qui, année après année, revenait. Mais quand elle est venue près de l'arche et qu'elle a demeuré près de l'arche, c'est là que le Seigneur est venu sur elle et que quelque chose a changé, que le miracle est apparu. Et Samuel, comme sa maman, il a demeuré, il est resté près de l'arche, tout près de la présence de Dieu. Et c'est là qu'il a entendu la voix de Dieu. Et c'est là qu'il a grandi. Et la parole nous dit qu'il ne laissait tomber aucune parole de Dieu, aucune. Mes amis, si vous voulez être dirigé par Dieu, vous ne devez laisser tomber aucune parole. Aucune parole. Souvent, nous sommes très légers avec la parole de Dieu. Nous recevons des prophéties qui retentissent ici et on les a aussitôt oubliées en sortant du culte. Je me souviens qu'à l'école biblique, nous avions également des forts ministères prophétiques, mais nous notions ces prophéties dans un cahier. Et nous prions là-dessus et nous les serrions dans notre cœur. Seigneur, ta parole a dit, et on croyait dans le ministère prophétique, vraiment. Et on recevait des paroles qui nous ont accompagnés et qui ont marqué plus d'un parce qu'on les prenait très à cœur. J'aimerais vous encourager, prenez à cœur. Prenez à cœur ceux qui reçoivent de Dieu. Même si c'est des choses connues et simples, prenez à cœur ce que Dieu dit. C'est important, ça a du sens. Ça a du sens. Samuel ne laissait tomber à terre aucune parole du Seigneur. Aucune. La voix de Dieu doit devenir un besoin et un grand désir. Un grand désir. Et Samuel, je pense, il a pris du temps dans ce stage qui a duré bien des années. Il a pris du temps pour apprendre à entendre la voix de Dieu. Et vous savez, souvent nous voulons, dans notre siècle de l'instantané, nous voulons vite recevoir une parole. Seigneur, j'ai juste un quart d'heure maintenant entre mon déjeuner et mon départ pour prendre le tram. Il faut que tu me parles, j'ai 15 minutes, Seigneur. Il ne reste plus que 6 minutes, Seigneur, parle-moi. Vous savez, lorsqu'on est comme ça, il vaut mieux prendre un deuxième café et se calmer. Ce n'est pas facile d'entendre la voix de Dieu sur une base régulière. Je vous parle en étant en plein temps dans le ministère depuis longtemps. Je me souviens avoir fait les 100 pas ici pendant des heures. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'une parole. Et les heures passaient et je ne recevais pas. Et puis je suis revenu en disant, Seigneur, même si tu ne me parles pas, je reste encore ici et je marche parce que je veux être avec toi. Même si je ne reçois rien, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je ne vais pas mourir si je ne reçois rien. Tu vas m'aider, Seigneur, c'est tout. Je te fais confiance, je veux être avec toi. Et c'est pour ça, si vous cherchez Dieu uniquement pour recevoir une parole de Dieu, c'est que vous êtes intéressé. Nous cherchons Dieu par intérêt, mais nous devons chercher Dieu pour Dieu. Dieu pour Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Sois pour lui, même si tu ne reçois rien pendant une semaine, et alors ? Ça ne fait rien. Sois là pour lui. Et si Dieu n'a rien de spécial à te dire, mais considère les paroles qu'il t'a données dans le passé. C'est qu'il n'y a rien de spécial à dire, c'est qu'il faut continuer avec ce que tu as déjà reçu. Si Dieu a donné une direction il y a 3 ans, ben, s'il ne te dit rien de nouveau, continue la direction. Certaines personnes veulent un changement. Je dis, tant que Dieu ne te parle pas, reste là où tu es, bouge pas. Si tu n'as pas la paix, il ne faut pas bouger. Il ne faut pas bouger. La paix est un indicateur. Je fais référence à un message qu'on a donné il y a quelques semaines. La paix de Dieu est extrêmement importante pour se diriger. La paix de Dieu. Ensuite, il y a, après toutes ces étapes, il y a des croissances dans la voie de Dieu, la direction de Dieu, encore plus précise. Alors, c'est d'un niveau plus élevé, c'est le niveau de Jésus, qui entendait la voix de son Père. Même au milieu de la foule, il entendait la voix de son Père, pour s'arrêter, pour toucher, pour guérir, pour dire quelque chose. Il était conduit, tout ce que le Père faisait, il le faisait. Le Père se taisait, il se taisait, le Père parle, il parle. Tout ce que le Père voit, il le fait. Ça, c'est le niveau plus élevé. Quand il passe par la Samarie, pour la Samaritaine, la femme samaritaine au bord du puits, il est dit, il fallait qu'il passe par là. Parce qu'il avait reçu une indication de Dieu, du Père. Il fallait qu'il passe par là sur le temps de midi, qu'il s'assied, etc. Il fallait, c'était obligé pour ouvrir une brèche, pour ouvrir une porte, pour toucher cette femme et puis tout le village. Il est dit, dans Ananias, un homme pareil, un disciple, il entend la voix de Dieu, va dans la droite, la rue qui s'appelle la droite. Et là, il y a un homme qui prie, tu lui imposeras les mains, il est aveugle. Ça, c'est des précisions incroyables. Pierre qui prie sur le temps de midi, encore dans Acte 10, où il est dit, le Seigneur lui dit, lève-toi, en bas, il y a trois hommes. N'aie pas peur, c'est moi qui les envoie, tu pars avec eux. Ça, c'est des directions précises. Et ça fait partie de notre vie aussi. Ça fait partie de la vie de chacun. Quand vous dites, Seigneur, utilise-moi, eh bien, le Seigneur va vous dire, ben, écris un message à tel, prends des nouvelles ici, téléphone là-bas, fais quelque chose et laissez-vous diriger. Et chaque fois que je l'ai fait, eh bien, j'ai été merveilleusement conduit. Une des dernières choses que j'ai vécues qui était marquante, au mois de novembre, lorsque je suis remonté pour voir encore ma mère qui était en fin de vie, j'étais donc avec elle, j'ai passé la dernière nuit à la veillée. Le lendemain, je suis dans ma fatigue, je suis parti marcher. Et dans ma marche dans la nature, cette marche que j'aimais faire et que j'ai souvent fait, je sens tout à coup, je n'ai pas entendu une voix, je n'ai pas vu un éclair, je n'ai rien vu, mais je sens dans mon cœur, quand vous êtes au Seigneur, l'Esprit de Dieu guide les fils de Dieu. Je sens dans mon cœur, Walter, fais demi-tour, dépêche-toi. Fais demi-tour. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai arrêté ma marche et je suis parti, mais presque d'un pas de marcheur forcé. J'arrive à la maison, l'aide-soignante était là, l'infirmière était là, elle dit, Walter, tout de suite, viens. Je suis arrivé au moment où ma mère décédait, parce que j'ai entendu, j'ai obéi à... Je ne vais pas vous raconter plus parce que j'ai peur d'être pris dans l'émotion, mais juste vous dire que quand vous sentez quelque chose qui vient de Dieu, faut le faire, il ne faut pas hésiter. Il faut répondre. Ne soyez pas comme une mule, entêtée, et puis se poser mille questions, oui, mais, etc. Il faut obéir comme un enfant. Et c'est là-dessus que j'aimerais encore juste terminer. Il y a la part de Dieu, puis il y a notre part dans la direction divine. Il y a la part de Dieu qui nous conduit dans la vérité, parce qu'il est notre berger, les brebis connaissent sa voix. Il nous conduit à cause de son nom. Tu es ma forteresse, mon rocher. À cause de ton nom, tu me conduiras. Psaume 31, verset 4. Tu me conduiras à cause de ta fidélité, Seigneur. Et ma part, c'est simple. Amos le décrit de telle manière, au chapitre 3, verset 3. Facile à retenir, 3:3. Amos dit, comment est-ce que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont jamais mis d'accord ? Tu es appelé à marcher avec Dieu, côte à côte, comme un ami marche avec son ami. Et ça marche uniquement si tu es pleinement d'accord. Il faut être d'accord de rester proche du Seigneur. Ne jamais avoir un décalage, Dieu derrière ou Dieu devant, et puis tu ne suis pas. Jésus dit, suis-moi, marchons côte à côte. Un homme peut-il convenir de marcher ensemble ? Peuvent-ils être des amis s'ils ne marchent pas en commun accord ? Il faut que tu sois en accord. Il faut que tu sois un enfant de Dieu qui ait fait un accord, une alliance avec le Seigneur pour marcher à ses côtés. Ensuite, il est clair qu'il faut marcher dans l'humilité et dans la confiance. Même si parfois je ne comprends rien au chemin sur lequel je marche. J'aimerais être conduit dans les verts pâturages tous les jours, près des eaux paisibles tout le temps. Mais parfois, Dieu choisit mon chemin par une vallée, par un désert, par une solitude, par quelque chose que je ne comprends pas. Et c'est là que je fais confiance. C'est là que je marche par la foi, en disant, mon ami connaît le chemin, moi je ne le connais pas, mais lui il connaît. Seigneur, c'est dur, Seigneur, je souffre, Seigneur, je suis complètement perdu, je ne sens rien, Seigneur, c'est terrible de ne rien sentir. Dans un monde où on veut toujours ressentir les choses. Marche par la foi, marche dans l'humilité, garde-toi proche de lui et tout ira très bien. Amen, tout ira très bien. Ne sois pas impatient. Et j'aimerais dire ça à nos jeunes. Caractéristique de nos jeunes, c'est on est impatient. Il faut que ça bouge, il faut que ça change, il faut que ça grandisse, il faut que ça déménage. il faut garder patience. Merci Seigneur pour l'école de la patience. Un dernier conseil dans le psaume 139, versets 7 et suivant, il nous est dit, Seigneur, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, tu y voilà. Si je vais habiter à l'extrémité de la mer, écoutez ce qui est dit. Là aussi, ta main me conduira. Alléluia. Même si je suis perdu, même si je suis éloigné, même si j'ai l'impression que je suis loin du Seigneur, j'ai perdu du temps, j'ai fait des bêtises, là aussi, sa main te conduira. Fais confiance, il te conduira. Amen.